Mandarin. Première partie, chapitre 7. La corbeille de noces. La maison des Malissés présentait, par ce bel après-midi de printemps, une animation aussi inusitée qu'extraordinaire. Agénor et Thérèse, bouffies d'orgueil à la pensée que leur fille allait devenir Madame la fermière générale, s'étaient empressées de faire part à leurs amis de l'heureux événement et de les inviter à admirer les somptueux cadeaux que Bourré d'Érigny, avec le faste d'un grand seigneur, avait déjà fait parvenir à sa fiancée. Madame Malissée débordait littéralement d'allégresse. Quant au brave entreposeur, s'il n'en avait pas perdu l'appétit, il en avait du moins perdu le sommeil. Et, miracle qui ne s'était pas produit depuis de nombreuses années, après un copieux déjeuner, plus copieux peut-être encore que d'ordinaire, le bonhomme, en se levant de table, au lieu de gagner son fauteuil, entre les bras duquel il avait coutume de faire la sieste, s'était rendu directement au salon, déjà rempli d'un lot respectable de braves bourgeois et de gentes damoiselles qui, ostensiblement éblouies, s'extasiaient devant les véritables merveilles qui s'entassaient sur une grande table au milieu de la pièce. Le fait est que Bourré d'Érigny avait fait royalement les choses. Escomptant d'avance son succès et persuadé que Nicole, ainsi que ses parents, accepterait avec enthousiasme l'offre d'un mariage inespéré, il avait apporté de Paris une véritable corbeille de noces qui dépassait en splendeur les mirages les plus féeriques. Colliers de perles d'un orient admirable, bagues innombrables, véritable gamme étincelante de toutes les pierreries les plus rares, pendentifs, sautoirs, bracelets, boucles d'oreilles en diamant, montés par le plus merveilleux orfèvre de l'époque, dentelles de Malines, de Valenciennes, points d'Angleterre, d'Alençon et de Venise, tissus de Chine importés par la Compagnie des Indes, soieries de Lyon brochées aux chatoyantes couleurs, velours de Gênes, bref, un prodigieux trésor. Et c'était des exclamations à l'infini, invariablement soulignées par cette phrase sous laquelle perçait l'inévitable jalousie « Nicole a bien de la chance !» tandis que sa mère triomphait bruyamment et que son père transformait ses bâillements habituels en un sourire d'amène allégresse. Nicole, sur laquelle toutes ses richesses ne semblaient produire aucun effet, se tenait à l'écart, répondant par un sourire contraint aux félicitations plus ou moins pincées de ses amis. La pauvre enfant était désespérée. À mesure qu'elle voyait s'approcher l'heure où elle devrait tenir l'engagement qui lui avait été si brutalement arraché, elle sentait grandir sa douleur et aussi sa honte. Car le simple aveu de son amour à Mandrin lui apparaissait, dans la limpide loyauté de son âme, comme une promesse sacrée entre toutes. Et le regret de son sacrifice se doublait pour elle d'un parjure d'amour. Toutes ses richesses étalées, tous ses bijoux, dont elle allait être obligée de se parer, augmentaient encore sa détresse. Qu'elle se fût vendue pour sauver les siens, ce n'était qu'un malheur déplorable dont elle souffrait atrocement, mais dont elle n'était pas responsable. Seul était coupable celui qui n'avait pas craint d'exercer sur elle un chantage aussi abominable. Qu'elle fût contrainte à étaler au grand jour le faste dont son opulent mari voulait l'entourer, à accepter de partager son existence quasi royale, à paraître avec lui, le sourire aux lèvres, dans ses réceptions auxquelles elle ne manquerait pas d'être conviée, à présider les fêtes que Bourré d'Érigny parlait déjà d'organiser dans ses princières résidences, en un mot, à jouer une comédie à laquelle rien ne la prédestinait et qui lui était d'autant plus odieuse qu'elle ne pouvait être que le masque d'une inguérissable tristesse. Cela était déjà au-dessus de ses efforts. Mais ce qui la désolait le plus, c'était de constater que ses parents, pourtant si braves gens, étaient incapables de comprendre ce qui se passait en elle et se réjouissaient dans l'inconscience de leur esprit entiché de grandeur d'une union qui brisait à jamais sa vie. Aussi, lorsque le flot de visiteurs se fut écoulé, la pauvre Nicole, donnant libre cours à son chagrin, fondit-elle en larmes.
« Oh ça, par exemple !» s'exclamait Madame Malicet. « Voilà que tu pleures comme une fontaine, quand tu devrais être si heureuse !»«
Heureuse !»
s'écriait la pauvre petite dont les sanglots redoublaient. « Regarde cette corbeille de noces !» s'écriait l'excellente Thérèse avec toute la bonne foi dont elle était capable. « Si ton père m'en avait seulement offert le quart, j'eusse été folle de joie !» Décidément, les jeunes filles d'à présent donnent bien du tourment à leur mère.
Ma petite Nicole cherchait à consoler bonassement le papa Malicet.
Tais-toi, interrompait sa femme. Tu vas encore l'attendrir, et ce n'est pas le moment. Allons, ma fille, essuie tes yeux, et quand mon gendre se présentera, j'entends que tu lui fasses une autre figure.
Maman, déclarait Nicole, « ne me demandez pas une chose qui dépasse mon courage. »«
Qu'est-ce à dire, mademoiselle ?»«
C'est uniquement pour obtenir votre liberté que j'ai consenti à épouser M. d'Hérigny.
Oh, »« Tu nous as déjà raconté à ce sujet un tas de sornettes que je ne veux plus entendre. »«
Mais c'est pourtant la vérité. »«
Quand je songe qu'il y en a tant qui voudraient être à ta place. »«
Je n'aime pas cet homme. »«
Ah, tu es difficile. » Si c'était un barbon laid et mal conformé, je comprendrais qu'une jolie fille comme toi éprouva quelque répugnance à unir ses jours aux siens. Mais M. d'Hérigny est jeune et beau, sa distinction est incomparable.
Ah, tu fais la moue.
Vraiment, je n'aurais jamais cru que j'avais pour fille une pareille mijaurée. Songe donc à l'existence que tu vas mener, au faste dont tu seras environné. Au succès qui t'attendent, à la ville et à la cour. C'est un rêve inespéré que tu vas vivre.
Non, mère, ripostait bravement Nicole, c'est un grand chagrin que je vais réaliser.
Un grand chagrin? Ma parole, tu perds la tête.
Non, j'ai toute ma raison. Et, d'accord avec mon cœur, elle me dit que je ne serai jamais heureuse avec cet homme.
Pourquoi?
Parce que... Pour obtenir ma main, M. Bourré d'Hérigny a usé d'un procédé qui a achevé de me le rendre odieux.
Ah, ça, malheureuse ! Intervenait Malicet tout tremblant. Tu veux donc nous faire renvoyer en prison ?
Rassurez-vous, mon père, j'ai promis à M. Bourré d'Hérigny d'être sa femme en échange de votre liberté. Je ne m'en dédie pas, et je l'épouserai. Mais j'espère bien démontrer par la suite... qu'on ne violente pas impunément l'âme d'une jeune fille.
« Que signifient ces menaces ? » s'exclamait Madame Malicet.
« C'est mon affaire.
Ah, vous êtes une insolente, une péronnelle. »«
Je vous ai sauvée. Ne m'en demandez pas davantage. »
Et Madame Malicet, poussant son mari vers son fauteuil, lui intimait sur un ton qui n'admettait pas de réplique. « Ah, vous pouvez vous vanter d'avoir su élever votre fille. »«
Maman !»
Et cela se permet de ressembler à Louis XIV ?
Thérèse, plus un mot.
Dors et tais-toi.
La soubrette Martine annonçait « Monsieur le fermier général !»«
Qu'il soit le bienvenu !»
s'écriait la commère. « Et toi » glissa-t-elle à sa fille, « tâche au moins de sauver les apparences !»
Et elle s'empressa vers Bourré d'Hérigny qui s'avançait avec le sourire infatué d'un conquérant irrésistible.
« Monsieur d'Hérigny !» s'écriait Thérèse.
« Vous avez comblé ma fille. Cette chère Nicole est tellement émue qu'elle ne sait comment vous remercier. »«
Je suis charmé, madame, »
ripostait le fermier général, « d'apporter un peu de joie dans cette demeure. »
Mais serais-je indiscret en vous priant de me permettre d'avoir un entretien avec ma fiancée ?
Oh, nullement, mon cher.
Je n'ose pas vous dire mon gendre.
Vous le pouvez. Eh bien,
mon cher gendre, que votre désir soit exaucé.
Agénor, Agénor, viens,
Laissons en paix les amoureux. »
Et Madame Malisset disparut en entraînant son mari. Bourré d'Érigny considéra un instant Nicole qui, les yeux baissés, attendait qu'il prît le premier la parole.
« Nicole, fit-il, je vois que l'aversion que je vous inspire n'est pas encore dissipée. »
Nicole eut un mouvement. Avec un accent de persuasion qui était sincère, d'Érigny poursuivait.
« Je n'ignore pas ce que vous me reprochez. Pour fléchir votre volonté, je me suis servi d'un moyen peu honorable.
Mais je vous adore à un tel point que j'eusse bravé l'enfer pour vous posséder. Aussi, pardonnez tout de suite à celui qui, désormais, n'a plus qu'un but. Touchez votre cœur et le conquérir comme vous avez conquis le mien. Je vous en supplie, écoutez-moi. Ne voyez pas en moi l'amoureux frivole, emporté par une passion aussi véhémente qu'éphémère. Non, Nicole, je sens très bien que je suis attaché à vous pour toujours, et qu'en dehors de vous, rien ne saurait exister pour moi. Je viens donc vous répéter avec encore plus de conviction ardente ce que je vous ai dit l'an passé dans le parc de Versailles. Je veux que vous soyez la plus heureuse des femmes. » Et, désignant d'un geste large les merveilles étalées sur la table, il ajouta « Ceci n'est rien à côté de ce que je veux faire pour vous. »
« Croyez-vous donc, riposta Nicole, que la richesse suffise à assurer le bonheur ?»«
Sans doute, concluait Bourré d'Érigny avec amertume, attachez-vous un prix plus grand à certaines petites bagues que vous portiez au doigt le jour de mon arrivée et que vous avez eu la délicatesse de faire disparaître. Que voulez-vous dire ?
Puis-je vous parler avec franchise ? Si vous le voulez, arrêtez-moi si je vous offusque et excusez-moi si je vous offense. Dites toujours.
Eh bien, je me demande avec angoisse si la froideur que vous me témoignez n'est pas en raison directe de l'admiration que vous inspire celui qui vous avait offert ce bijou.
« Et quand cela serait ?» se révolta soudain Nicole.
« Ma chère petite, reprenait Bourré d'Érigny, vous voyez avec quel calme je m'explique, avec quelle résignation je vous écoute. Et savez-vous pourquoi ? Parce que je vous aime, d'un amour qui est tellement au-dessus des misères humaines, que, comprenant votre faiblesse, je n'ai pas en moi d'autre volonté que celle de vous guérir. Oui, j'en suis sûr, si ce mandrin vous a un instant troublé, ce ne peut être que par surprise. Mais, par Dieu, ressaisissez-vous.
Oh, je sais ce que vous allez me répondre. Mandrin n'est pas un bandit, c'est le défenseur des malheureux, l'ennemi des fermiers généraux, des oppresseurs du peuple, ainsi qu'ils nous appellent.
Eh bien, tout ça n'est qu'une légende qui lui sert à masquer ses actes les plus abominables et grâce à laquelle il a réussi à troubler votre cœur compatissant et généreux. Mandrin, demain, il sera sous les verrous. Il comparaîtra devant ses juges et la vérité éclatera dans toute sa laideur. Alors, ma bien-aimée, écœurée, désillusionnée et déplorant d'avoir considéré ce brigand de grand chemin comme un héros, vous vous réfugierez dans mes bras, dans ceux de votre mari, qui veut être aussi pour vous le plus passionné des amants, et vous oublierez vite cet égarement romanesque en entendant vibrer près du vôtre un cœur qui ne bat et ne battra jamais que pour vous.
Un silence glacial accueillit ces paroles. « Hélas, reprenait Bourré, je m'aperçois que je ne vous ai pas convaincu. Mais mon amour n'est pas pétri que de désir. Il est fait aussi d'une inlassable persévérance. Et j'en ai la conviction, vous m'aimerez un jour. Oui, vous m'aimerez.
La jeune fille, qui jusqu'alors s'était enfermée dans un douloureux silence, s'écria avec une franchise qui n'avait d'égal que son courage. « Croyez-vous donc, monsieur, qu'il vous suffise pour me faire oublier votre conduite à mon égard, de me combler de cadeaux, de m'accabler de déclarations brûlantes, de m'éblouir d'éloquentes promesses ? Non, car je ne suis ni une coquette, ni une ambitieuse. Ainsi que je vous l'ai déclaré, en réponse à vos premiers aveux, ma façon de comprendre le bonheur est si différente de la vôtre que vous auriez dû vous rendre compte qu'il me sera impossible d'être heureuse avec vous. Pour vaincre ma résistance, vous n'avez pas craint d'envoyer en prison les braves gens que sont mes parents. Et nul doute que, si je ne vous avais pas cédé, vous n'eussiez pas hésité un seul instant à les faire condamner à des peines aussi sévères qu'ils méritaient. Et si, à l'heure présente, je refusais de vous épouser, je lis dans votre regard de quelle vengeance vous seriez capable. Cette fois, vous seriez sans pitié. Ah ! Combien il serait plus digne de votre part, maintenant que je vous ai parlé en toute loyauté, de me dire « Nicole, je renonce à vous. Je ne veux pas vous contraindre à une union qui vous désespère. » Oh ! Alors, j'oublierai si vite tout ce que vous m'avez fait souffrir. Et, à défaut d'un amour impossible, avec quelle joie je vous accorderai toute ma reconnaissance et toute mon amitié. « Nicole, répliquait Bourré d'Hérigny, n'attendez pas de moi une pareille faiblesse. Dites plutôt le plus grand des services. Non, car je ne veux pas vous perdre. Je veux vous sauver. Oui, vous sauver de Mandrin et de vous-même. Soit, déclara Nicole, puisque vous exigez que je sois la rançon de la liberté des miens, je m'incline donc devant votre volonté. Et moi, concluait Bourré, je ne désespère pas de désarmer un jour le plus adorable des otages. Martine accourait, annonçant « Monsieur l'exempt Trollon désire parler à monsieur le fermier général. Dites-lui d'aller m'attendre près de l'église. » Tandis que Bourré d'Hérigny s'éloignait, Nicole s'avança vers Martine et lui demanda à voix basse « Aucune nouvelle de Mandrin ?»« Aucune. Mon Dieu !» soupira la jeune fille. « Faites qu'il me comprenne et surtout qu'il me pardonne. » « Eh bien, monsieur l'exempt, » attaqua avec hauteur Bourré d'Hérigny qui avait rejoint Pistolet. « Monsieur le fermier général, » répliquait le policier, « hélas, je n'ai rien encore. C'est fâcheux. Croyez que je ne suis pas resté inactif. Depuis que Mandrin nous a filé entre les mains, je n'ai pas pris un seul instant de repos. J'ai multiplié enquête sur enquête, interrogé tour à tour les habitants de Beaujeu, hommes, femmes, enfants. Mais je dois avouer que je n'ai rien pu leur tirer. Aussitôt que l'on prononce devant eux le nom de Mandrin, toutes les bouches se ferment. Et le vénérable curé de cette paroisse n'a répondu à mes respectueuses questions qu'en joignant les mains et en levant les yeux au ciel. J'ai même observé, parmi la maréchaussée de cette localité, un certain manque d'empressement à s'élancer à la poursuite de notre homme. Non point que ces gendarmes manquent de courage, mais ils me semblent fort impressionnés, malgré eux, oh bien malgré eux, par le prestige et la popularité de cet infernal bandit. Aussi ai-je pris sur moi d'envoyer à toute vitesse un courrier jusqu'à Grenoble, afin de réclamer du renfort. Et j'ai la satisfaction de vous annoncer l'arrivée de 50 gendarmes, grâce auxquels, sans tarder une minute, je vais pouvoir me mettre utilement en campagne. Auriez-vous l'intention d'attaquer Mandrin dans son repaire ? Non, monsieur le fermier général, car pour cela, il me faudrait franchir la frontière. Et monsieur le lieutenant de police m'a recommandé d'éviter avec soin toute complication avec le duché de Savoie. Alors, voilà pourquoi, et cela sous réserve de votre haute approbation, je crois qu'il serait préférable d'attendre que Mandrin pénétrât sur le territoire français pour lui livrer bataille. Vous n'ignorez pas que c'est un rude adversaire.
et qu'il est à la tête d'une troupe nombreuse et bien armée.
Je le sais. Aussi ai-je décidé de lui tendre un traquenard. Mandrin est un gibier doué d'un flair parfaitement capable de déjouer tous vos artifices. Et sachez que, plus que jamais, je tiens à ce que vous fassiez de lui bonne et prompte capture.
Monsieur le fermier général, faisait observer Pistolet, daignez parler moins haut, car je crois qu'on nous écoute.
En effet, depuis un instant, Pistolet, l'œil à tout, remarquait un jeune paysan, à l'allure timide, embarrassé, et qui, tout en l'observant à la dérobée, semblait, sans l'oser ouvertement, désireux de l'aborder.
« C'est peut-être un espion de Mandrin, » murmura Pistolet à l'oreille du fermier général.
« Voyez, c'est votre affaire, » lançait ce dernier.
L'exempt fit signe à Thiénot d'avancer. Celui-ci, jouant merveilleusement son rôle, s'approcha d'un air hésitant, timoré, regardant derrière lui pour voir s'il n'était plus suivi, et saluant d'un air gauche, le front baissé, les yeux à terre, tournant et retournant dans ses mains son chapeau en feutre gris, il fit d'une voix basse et comme honteux d'avance de ce qu'il allait proposer, « Monsieur l'exempt, on m'a dit que vous recherchiez Mandrin. »«
Parfaitement, » répliqua Trollon.
« Je fais partie de sa bande. Mais j'en ai assez de l'existence qu'il nous impose et je n'ai pas envie de finir sur le gibet. Avec ma grâce, combien me donneriez-vous si je vous le livrais ?»
Avant de répondre, Pistolet examina d'un air méfiant son interlocuteur. Puis il reprit
« Qui me dit qu'au lieu de tendre un piège à Mandrin, ce n'est pas moi que tu veux faire tomber dans tes filets ?»«
En ce cas, » objecta Thiénot, avec un peu plus d'assurance,
« je ne viendrai pas me jeter dans la gueule du loup. »«
Cela me semble fort juste, » opinait Bourré d'Érigny.
« Eh bien, parle, » invitait Pistolet.
« Alors, j'aurai ma grâce ?»«
Tu l'auras. »
« Et sans écus ?»«
Tu les auras également,
si tu dis la vérité. »
« Mais si tu m'as menti,
tu le paieras de ta tête. »«
En ce cas, je suis bien tranquille, monsieur l'exempt. Jamais elle n'a été plus solide sur mes épaules. »«
Alors, explique-toi. » »«
Ce soir, à 10 heures, Mandrin a un rendez-vous d'amour près de la Roche du Pin. »«
Où est-ce, la Roche du Pin ?»«
Sur la route de Savoie, à 3 portées de fusil de l'entrée du village. » Il y viendra seul ou faiblement accompagné. Il vous sera facile de le cerner et de le prendre.
« Et peux-tu me dire, » interrompait Bourré d'Érigny, « quelle est la personne avec laquelle Mandrin doit se rencontrer ?» À ces mots, Jeanne d'Estenave sentit son cœur battre à se rompre sous sa vareuse de berger.
« Ce doit être avec quelque jeune fille de ce pays, » répliqua-t-elle. « Mais... j'ignore son nom.
C'est bon, conclut le fermier général, dont les yeux lançaient des éclairs.
Et, s'adressant à Pistolet, il poursuivit.
Ce garçon me semble sincère, et il importe que vous teniez compte de son indication.
Cependant, assurez-vous de sa personne. S'il a dit vrai, vous lui rendrez la liberté, et je lui remettrai moi-même, non pas les 100 écus demandés, mais 100 pistoles sonnantes et trébuchantes.
« Mais s'il nous a menti,
je vous autorise à l'abattre de votre propre main. » Et, sans rien ajouter, Bourré d'Érigny regagna d'un pas saccadé la demeure des Malicés, tout en grommelant.
« J'en suis sûr, c'est avec Nicole que Mandrin a rendez-vous. »
Et, tout en contenant à grand-peine la rage qui s'était emparée de lui, il grommela avec un sinistre sourire.
« Maintenant, je sais ce qui me reste à faire. »